Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 622 d'Invino BFM. Vous le savez, notre émission existe depuis 14 ans et c'est la seule au monde en langue française à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Aujourd'hui, un numéro spécial dédié au champagne et à l'œnotourisme en Champagne. À mes côtés, deux stars des bulles, Arnaud Robinet, le député maire de Reims, et Philippe Jamès, le chef sommelier du domaine des Créas. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bon, monsieur
Bonjour.
Le maire va bien ?
Impeccable.
Heureux d'être avec nous en ce dimanche ?
Heureux.
Et merci également à mes deux complices, Corinne Lefort et également Bernard Pucci.
Bonjour.
Corinne, vous aimez la champagne, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Hein.
Oui, hein, c'est merveilleux la champagne.
Et vous Bernard, les bulles, c'est aussi
moi j'adore les bulles, ou
pas trop quoi.
J'adore les bulles.
Ouais, vous êtes quand même alsacien au départ, donc ils en font là-bas aussi là, c'est... Hein.
Oui, mais c'est pas du même niveau quand même.
Bon, très bien. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au caveau du champagne de Castelnau, en présence de son directeur général, un garçon formidable, Pascal Prudhomme. Bonjour Pascal.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Merci en tout cas de nous accueillir dans ce lieu super dont on a beaucoup parlé. Il est utilisé pour quoi ? Donc pour, uniquement pour Invino BFM ou vous faites d'autres choses ici ?
Invino BFM d'abord et en priorité, puis ensuite on a la modestie d'accueillir pas mal de congrès, de séminaires, de salons dans ce caveau de réception formidable, qui peut recueillir 600 personnes couverts pour des repas, pour des conférences aussi. On a deux étages et puis on a aussi un site évidemment de production qui est la première destination de notre installation à Reims.
Alors vous êtes ingénieur agro et vous avez beaucoup bourlingué avant de si je puis dire, poser vos valises à Reims en 2008.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ça qui crée quelque part l'enrichissement dans une carrière professionnelle. Et à un moment donné, on aime bien se poser, partager cette expérience, entraîner les équipes et puis profiter aussi des belles bulles de champagne qui sont
parce
passionnantes.
Parce que vous êtes normand, donc c'est plus le calvin. Quoi.
Oui, je suis. Alors c'est le calvin et le cidre. N'oublions pas le cidre, exactement. Normand-Bretagne. Et puis tout ça mélangé un peu de varech ou de goémon, vous voyez. On n'avait pas grand-chose à manger là-bas. Alors on vient dans des régions riches. Riche de culture, riche de gastronomie, la Champagne en est une.
Vous aimez, Philippe Jamès, le cidre ou pas ? Vous
oui,
avez une carte de cidre au cahier ou pas ?
Non. On essaye d'éviter la concurrence avec le vin de Champagne.
Ouais,
on fait de jolis accords avec les cidres et les fromages, notamment. Mais on privilégie quand même notre boisson effervescente locale.
C'est quand même normal. Pascal, bravo et joyeux anniversaire. Merci. Un siècle pour cette marque de Castelnau. Un mot, est-ce qu'il a vraiment existé ce monsieur ou pas ?
Il a tout à fait existé. C'était un général de la Première Guerre mondiale qui a d'ailleurs œuvré dans les parages de Champagne. Et il est décédé en 1944. Donc, région du Sud-Ouest était représentée par lui. Général de Castelnau. Castelnau, c'est un nom un peu occitan. Et des négociants de la région d'Épernay, en 1916, voyez-vous, durant la bataille de Verdun, ont souhaité pouvoir utiliser le renom de ce général pour pouvoir apposer ce nom sur une marque de champagne. Et puis ensuite, ont permis à ce champagne d'avoir une très très belle progression dans les années 20 et 30.
Corinne Lefort, vous qui êtes historienne notamment, ce général, il était sympa ou pas ?
C'était un drôle de bonhomme quand même.
Ah bon ?
Ah oui, c'était un drôle de bonhomme. D'abord, il avait installé son quartier général au château de la Marqueterie, qui est aujourd'hui le siège de la famille Tétinger. Donc on est à Pierry, pas très loin. Et puis surtout, c'était un homme qui avait des convictions qui sont tout à fait celles de son époque. Donc plutôt conservateur, quelqu'un de très impliqué dans la notion militaire de la grandeur de la France. Il y a quelques sensations qui rappellent les tendances d'aujourd'hui, mais je dirais que la différence, c'est qu'il était quelqu'un de très convaincu, de très volontaire. C'était un des premiers généraux, on verra, on dira après Pétain, mais qui allait sur le terrain. Je veux dire, c'est quelqu'un qui allait dans la boue, qui a été très proche de ses hommes.
Un vrai bosseur.
C'était un vrai bosseur. Et il a toujours eu une carrière avec une vision d'abord politique pour sa région, parce qu'il a été député. Et puis après, il a beaucoup, beaucoup milité pour la grandeur de la France.
Bernard Burchi, cette maison, cette marque de Castelnau, on a l'impression qu'elle a été réveillée.
Je crois qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, elle a vraiment été réveillée. D'ailleurs, elle a des atouts formidables, à la fois pour les approvisionnements. Donc ici, le lieu, qui est quand même très bien. Donc ici, il y a évidemment tout pour réussir.
Pascal, au total, cette coopérative, elle compte combien de coopérateurs sympas ? Tous, mais il y en a combien ? Et combien d'hectares au total ?
Alors, ils sont tous sympas, évidemment, mais on doit les compter au nombre de 785 sur à peu près 900 hectares sur l'ensemble du territoire champenois. Donc ça nous donne une richesse de crue absolument formidable. Qu'Elisabeth Sarcelet, qui a été nommée cette année d'ailleurs, vous voyez, c'est une année faste pour nous, hein, qui a été nommée chef de cave de l'année, Avec ses équipes, se réjouit de transformer en vin, puis ensuite en champagne.
Bernard, il y a beaucoup de femmes chefs de cave en France ?
Pas suffisamment. On voit bien que ça monte, puisque le diplôme national d'œnologue produit aujourd'hui plus de femmes que d'hommes.
Oui.
Donc ici, mais elles ne sont pas encore vraiment aux commandes.
Philippe James, une femme qui crée ce champagne, ça a une influence sur le produit ou pas du tout ?
Probablement. Après, regardez-moi dans mon équipe, j'ai trois femmes.
Trois femmes. Et celui qu'on invite à la radio, c'est le garçon.
Non, trois femmes, un garçon, et plus le garçon à la radio. Mais je pense que la sensibilité féminine pour l'élégance de l'effervescence est peut-être intéressante. Elle l'est de toute façon. Je pense qu'il y a une façon d'analyser, de percevoir tactile un peu différente. Les codes sont pas les mêmes.
Arnaud Robinet, vous en pensez quoi ? Déjà, à la mairie de Reims, il y a beaucoup de femmes ou il n'y a que des hommes ?
Ah non, la parité oblige. Et au-delà, vous savez, quand j'avais fait ma première liste pour l'élection municipale, j'avais mis des noms, personnes en fonction de leurs compétences, ce qu'ils pouvaient représenter sur le territoire, et je me suis rendu compte que j'avais plus de femmes que d'hommes.
En termes de compétences ? C'est sympa pour les garçons.
Liste, voilà. Ah ouais. Et donc j'ai dû retrouver quelques hommes pour pouvoir avoir cette parité aujourd'hui. Voilà. Non, mais en tout cas, on parle de femmes, on parle de champagne et... Entre le champagne et les femmes, c'est une véritable histoire parce qu'aujourd'hui, toutes ces grandes marques de champagne, c'est avant tout des histoires de femmes, des femmes qui ont été innovantes à leur époque d'un point de vue commercialisation, marketing également, et qui ont compris ce que pouvait apporter pour un territoire, notamment le no-tourisme à une certaine époque, puisque quand on regarde, excuse-moi Pascal, je vais citer d'autres marques de champagne,
mais
si on regarde la maison Pommerie et le domaine Pommerie, qui avait été réalisé par Madame Pommerie justement pour pouvoir accueillir de nombreux touristes et notamment pour faire découvrir la région. Donc les femmes et le champagne, c'est une véritable histoire. Et encore aujourd'hui, beaucoup de maisons sont dirigées par des femmes.
Ouais, en revanche, Corinne, c'est super dangereux pour les hommes parce qu'il y a beaucoup de veuves ici. Hein.
Oui, hein. Moi, si j'étais vous, je dirais qu'il faut trouver vite une évolution dans vos différents métiers, parce que les femmes sont très facilement capables, et même au-delà, la sensibilité du palais, c'est quelque chose sur lequel effectivement on se pose toujours des questions, mais l'avantage des vins de bulle, c'est que c'est une fraîcheur, c'est une acidité, et c'est vrai que les femmes ont souvent un palais parce qu'elles n'ont pas eu traditionnellement, maintenant les choses changent, à fumer beaucoup, à avoir une vie peut-être plus liée à d'autres boissons, et c'était la force en fait.
Pascal Prudhomme, dans la gamme, qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme de votre maison ?
Bon, on trouve un brut réserve, mais qui a une particularité étonnante, c'est que nous vendons des bruts qui ont à peu près 8 à 9 années d'ancienneté, de vieillissement en cave.
En général, Bernard, c'est combien de temps pour les petits copains concurrents ?
Il y a un minimum légal, entre 15 mois et 36 mois, mais beaucoup de marques dépassent quand même ce minimum légal.
Pascal, donc c'est un souci de qualité, c'est ça ?
C'est un souci à la fois de qualité, d'expression, de personnalité aussi de la gamme Castelnau, parce que associé à ce long vieillissement, il y a aussi une fraîcheur. Et là, lorsque on peut déguster notre champagne, il y a à la fois un enrichissement au niveau du palais, un enrichissement au niveau du nez, bien évidemment, en premier lieu, et puis ensuite un sentiment de fraîcheur, et il y a une surprise, une curiosité qu'on entretient, et c'est ça la marque Castelnau. C'est quelque part l'idée d'une innovation en mélangeant à la fois la curiosité de la fraîcheur est due notamment à la finesse des bulles, et ensuite un arôme qui est extraordinairement long sur le palais. Et voilà.
Et pour
voilà,
célébrer votre premier siècle, vous avez créé la cuvée hors catégorie.
Oh, s'il n'y avait que ça. Mais on a effectivement... Ah oui, on a jeune centenaire, dynamique et tout, mais l'année se termine d'une manière faste avec vous déjà. Et ensuite, effectivement, on a lancé une cuvée qui s'appelle hors catégorie, qui maintenant trouve très rapidement sa place, notamment à Paris, mais aussi aux Crayères. Et ça a été, je dois le dire, Philippe, le premier client hors catégorie a été ici avec les Crayères, et je leur remercie. Hors catégorie est un assemblage de 3 millésimes.
3 millésimes. 3 millésimes. C'est indiqué sur la bouteille ou pas du tout ?
C'est indiqué sur la bouteille, et nous avons actuellement une exposition remarquable, puisqu'on vient aussi, encore un prix, de recevoir le prix... de la création audiovisuelle par les trophées de la communication.
Vous étiez à Cannes, d'où le teint allé.
Oui, alors ça, on peut regarder le teint allé, c'est plus le vélo que Cannes. J'y passe pas, mon président est là, donc je passe plus souvent de temps ici qu'à Cannes. Je tiens à le conforter là-dessus. Mais on a eu ce prix aussi avec Horizon Bleu et Didier Jeannot et son équipe qui ont compris la maison.
Très belle boîte.
et ont compris le sens qu'on voulait donner à notre deuxième centenaire qu'on est en train de construire ensemble. Et c'est ça qui est important. Voilà.
Et combien de flacons pour cette cuvée excellente?
3500 flacons. Il en reste un tout petit peu. Donc les prix sont en train de
dépêcher. Combien ça coûte d'ailleurs?
90 euros TTC public.
Faut mettre un petit prix aux éditeurs d'une ville de BFM. Hein, vous la faites quoi?
Oh, on va faire peut-être 89,99 comme ouais, on voit dans certains magasins.
Donc c'est collector ça, il faut se dépêcher.
Exactement.
Parce que normalement au 31 décembre il n'y aura plus.
Exactement,
quoi.
Mais le prochain tirage, on pourrait peut-être sur le tirage de l'année prochaine envisager 8 à 9 000 flacons par exemple.
Bah là là, donc ouais. On verra. Hein,
pour ce tirage qu'on a mis actuellement sur les tables a été fait en 2011.
2011, très bien. Corinne Lefort, si on parlait de l'histoire, oui. L'historique de la Champagne, qui a inventé le Champagne? Dom Pérignon ou encore les Anglais?
Je crois que il faut pas commencer comme ça, cher ami. Il faut plutôt se dire que c'est un ensemble qui était dans l'air du temps, de l'époque. En fait, la première. Enfin, revenons aux bases. La Champagne, c'est 33 000 hectares à peu près, grosso modo. Même si on peut discuter précisément, mais ça ne représente que 2% du vignoble français. 2%. Donc l'histoire est restée relativement locale pendant très 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 longtemps. En fait, c'est en 1584 que Pierre Gosset, échevin et vigneron à Haï, fonde la première maison de champagne, de vin de champagne. Son rouge tranquille, c'était pas un vin mousseux à l'époque, est très prisé, mais il ne produit pas de vin mousseux. Ce sont à l'époque les négociants anglais qui se chargent d'inclure alors le sucre dans le vin et de procéder à la seconde fermentation. C'était une tradition d'Angleterre, parce que comme les vins voyageaient mal, il fallait pouvoir leur donner un coup de fouet, hein, de la vitamine C, c'est comme quand on commence à être flébard, et on redécouvre en fait le plaisir des vitamines. Donc les Anglais aimaient les vins qui avaient, je dirais, ce côté perlant, et donc ils vont introduire ce sucre. Ils seront aussi les premiers, hein, la maison Gosset, en 1664 va les suivre, les Anglais à évoquer la pétillance du champagne. Dans tous les documents historiques que l'on retrouve, le plus ancien sur la pétillance du champagne, c'est 1664. Le flou entretenu va pourtant continuer, tandis que le mot bulle, le mot simplement d'une bulle, n'apparaîtra en France pour ce vin qu'en 1712. On ne parlait pas du vin de champagne avec l'idée, même s'il existait donc en 1712, avec l'idée qu'il fallait parler de la bulle, du perlant, ça. Non, ça c'était vraiment avant, aucun souci. D'ailleurs, c'était considéré comme pas très bon quand ça perlait.
C'était une erreur de casting.
Absolument. Donc, le seul flou n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Pourtant, un des leurs, qui va être le grand philosophe, le grand poète, je dirais, champenois, Charles de Saint-Évron.
Grand copain de Bernabucci, oui.
Oui, c'était aussi comme Bernard, un saint, fondateur de l'ordre des Coteaux, qui participa dès 1661 aux prémices de la renommée aristocratique du champagne outre-Manche. D'ailleurs, il est enterré à Westminster. Se félicite de l'habitude des Britanniques à boire le sparkling wine, le sparkling champagne, sans E à la fin, en cela bien différent des Français. Alors, bien sûr, il va mettre les rois, les marchands, tous les gens importants qui pouvaient se payer cette boisson rare, et bien sûr, l'Église, qui vont être les grands producteurs. Alors, un vin d'Église pour servir l'Europe, du sang du Christ au vin de fête, dont Pérignon y est allé franco, la viticulture champenoise fut depuis le Moyen-Âge grandement régie par les ordres monastiques. Il faut venir, on va parler d'Auvillé, parce qu'on parlera de nos tourismes dans la région. Auvillé, c'est le haut village. Et dès le IXe siècle, on y avait rapporté les reliques de Sainte-Hélène. Il faut dire que Sainte-Hélène, c'était la mère de l'empereur Constantin qui lança le christianisme, qui officialisa le christianisme dans tout l'Empire. Et Sainte-Hélène, ses reliques avaient été volées par un moine à Rome et elles sont arrivées à Auvillé. Et à partir du IXe siècle, ce sont des routes de pèlerinage qui vont amener la population du monde entier déjà vers cette région de Champagne par ses pèlerinages. Et Dom Pérignon, qui était donc un moine qui avait fait aussi ses classes ailleurs, il avait été à Die, en Drôme, il avait été aussi dans d'autres régions, comprend que ce vin qui avait du mal à voyager, ce vin qui avait du mal à être commercialisé, surtout lors des grandes foires de drap du négoce de Reims, parce que Reims était une ville qui recevait tout le monde des finances entre la Toscane, les Belges, c'est-à-dire à l'époque les Flamands, les Hollandais, tout ce monde se retrouvait à Reims et on y buvait à l'époque du vin qui venait d'autres régions. Et là, le moine a dit, mais c'est pas possible, ça, il va falloir qu'on trouve une solution. Et donc, uniquement les reliques, ça va pas durer longtemps. Et là, on va commencer à produire un vin. Et il va organiser la sélection. Il va mettre en place les meilleurs raisins. Il va obliger à ce qu'on les récolte à une certaine heure. On va les couvrir de draps. On va les stocker, ces vins, après, dans des crayères pour maintenir la fraîcheur. Toute cette technique, elle est effectivement due au Champenois et à Dom Pérignon.
Donc, belle histoire,
voilà.
Corinne.
Voilà. Donc, je pourrais vous continuer en parlant après de l'aristocratie française, parce que très vite, les marques comme la maison Mouette va s'associer notamment à des grandes figures de l'aristocratie. Vous allez avoir la famille Hetzig qui va être très liée avec la reine Marie-Antoinette. Vous allez avoir des gens comme la Pompadour, bien avant elle, bien sûr, qui va déjà avoir été une initiatrice du champagne. Parce que c'était petit, je vous ai dit, c'est 2% aujourd'hui du vignoble, mais à l'époque c'était encore plus petit, et donc ceux qui y avaient droit, c'était des gens très particuliers.
Merci beaucoup Corinne. Philippe James, merci parmi nous. Vous êtes le chef sommelier donc des Crayères à Reims. Oui. C'est un boulot sympa, sommelier. Vous avez toujours voulu embrasser ce beau métier ?
Non, ça a été un accident au début, mais je l'embrasserai progressivement, et surtout embrasser la champagne.
Alors justement, la carte des champagnes aux Crayères, combien de références différentes ?
Environ 800 aujourd'hui.
800.
Oui.
Oh là là. Et donc là, quand vous venez ici, on boit toujours du champagne. On n'a pas le choix.
En grande partie, oui. En grande partie.
Alors, on parle de l'élaboration de ce produit. On a vu au début des Anglais, des curés, tout ça. Comment est-ce qu'on réalise, comment est-ce qu'on crée un champagne ?
Il faut déjà avoir un joli raisin, donc mettre tous les efforts nécessaires à la vigne pour obtenir ce résultat. Ensuite, on le presse sur des pressoirs qu'on appelle traditionnels ou pneumatiques aujourd'hui. C'est 4000 kilos pour obtenir environ 2050 litres de jus. Qu'on appelle la cuvée. Cette cuvée, on va la mettre en cuve ou en tonneau, ce qui se pratique un peu plus aujourd'hui, ou même en foudre. On va réaliser une première fermentation qui va durer environ un petit mois de gestation entre les levures et le sucre naturel. Et puis ensuite, on va assembler ce premier vin fermenté avec trois raisins qui sont disponibles. Certains un peu plus anciens même, dont qu'on peut utiliser aussi, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, avec une toile tissée sur la champagne assez large, assez riche, comme la maison de Castelnau peut le posséder. Et chaque maison va créer son style, son vigneron, le vigneron, son vin, son millésime, sa grande cuvée, son rosé. Et ensuite, les vins sont mis en bouteille, ce qu'on appelle tiré, avec un réajout de sucre pour à peu près 20 grammes de sucre par litre pour obtenir 6 atmosphères. Une seconde fermentation va se réaliser en bouteille, et c'est là que le gaz carbonique va être emprisonné, d'où la création d'effervescence ensuite, lorsqu'on ouvrira cette bouteille. Un vieillissement avec la loi, ou prolongé, encore une fois, comme cette belle maison de Castelnau le fait.
8 ans, c'est beaucoup.
8 ans, mais il faut savoir que le temps, c'est... Je pense, et je suis même certain, le meilleur allié du champagne. C'est
vrai. Mais là, justement, les questions bêtes, là, ça peut vieillir le champagne ou pas, alors ?
Oui, parfois, bien plus qu'un vin.
Bien plus qu'un vin. Donc, ça veut dire qu'un champagne qui a 20 ans, 30 ans, ça peut être très très bon encore.
C'est pas une problématique, c'est au contraire un réjouissement exceptionnel.
D'accord. Et alors, un champagne millésimé, il est meilleur que les autres ou pas ?
Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Tout est lié au niveau de pureté initiale. Et la philosophie des maisons ou vignerons.
Et le champagne rosé, c'est que pour les filles ?
Non, c'est pour la gastronomie aussi.
Pascal, vous en vendez beaucoup de champagne rosé ou pas ?
Oui, on en vend, mais c'est grosso modo à peu près entre 10 et 12%, vous voyez, des volumes globaux que le champagne exporte. Ça représente parfois des effets de mode. Actuellement, on vit un effet de mode peut-être plus réduit. Néanmoins, c'est un vin plus fragile parce que on assemble aussi un vin rouge et un vin blanc pour faire un rosé.
C'est
la seule région en France où on peut le faire. Et nous, on le fait comme cela. On a une particularité. Moi, quand je vais au Japon, on me dit souvent elegant. Voilà, l'élégance. Et la couleur rosée est très importante dans le verre. C'est fabuleux, parce que c'est ça qui donne envie, notamment au public féminin, de pouvoir déguster.
Philippe James, au niveau de l'accord champagne-gastronomie, quelques clés vous pourriez nous suggérer ?
C'est toujours un peu compliqué, parce que un accord, c'est une intuition, c'est une projection, c'est aussi une personnalité et une expérience que l'on essaye de traduire, mais avec les vins de champagne, on a la chance d'avoir des niveaux de tension qui sont quand même très élevés, donc on utilise ce niveau de tension pour... soit percuter, mettre en frontalité une composition culinaire où on utilise une certaine forme de densité, de moelleux, d'épaisseur naturelle pour conforter une autre préparation. Donc on essaye d'utiliser. En général, on utilise trois trajectoires principales, la tension, donc cette nervosité, la qualité du fruit, une traverse un peu végétale, et puis une épaisseur globale. Après, le vieillissement, etc. Les catégories aromatiques sont aussi posées de manière familière avec la nature du plat.
Donc un dîner 100% champagne, c'est jouable?
Ah, complètement.
C'est même très bon, et c'est même conseillé d'ailleurs.
Et c'est même très surprenant et extrêmement digeste aussi. Il y a un aspect intellectuel très aérien. Je pense que la dégustation du champagne, c'est aussi une immersion différente dans un vin différent et qui procure des sensations tout à fait particulières.
Et les petits vieux qui vous servent un peu de champagne à la fin du repas avec un dessert au chocolat?
Pourquoi
petits vieux? Faut les mettre à la retraite.
Pourquoi petits vieux?
Non, le chocolat, c'est intéressant. Il y a des chocolats qui sont sensiblement fumés ou avec des amertumes particulières. Les brutes nature ont des prédispositions sympathiques à être utilisées, mais c'est assez compliqué. Le dessert, en règle générale, il faut être le plus simple possible.
Oui, c'est ça, quand même. Merci beaucoup, Philippe Jamès, qu'on peut retrouver matin, midi et soir aux Crières à Reims. Mes amitiés à votre directeur général, Hervé Faure. Bernard Burchi, le monsieur vin du Figaro est aussi ici. Vous aimez le champagne, vous, Bernard?
J'adore le champagne.
Bon, on parle un peu de l'économie du champagne, ce marché mondial des bulles.
On appelle effervescent d'abord lorsqu'il y a plus de 3 kilos de pression, puisqu'il y a plein de vins qui ont un peu de pression. Alors qu'ici, c'est un marché qui est en croissance. D'ailleurs, il y a 2,5 milliards de bouteilles, en gros, par an. Alors qu'ici, le premier producteur est sans surprise la France, mais je vous demande en mille, quel est le second producteur mondial?
De bulles. Eh ben voilà, monsieur le député maire, voilà, Pascal.
L'Italie.
C'est l'Allemagne.
Ah, pas loin.
C'est l'Allemagne, Andoxy, qui est d'ailleurs le premier pays consommateur.
Et l'Italie
du
bien
monde.
Placée quand même. Hein.
Ah, si. Et d'ailleurs, l'Allemagne a quelque importance, puisqu'il y a des marques qui s'appellent Bollinger, Krug, enfin juste pour rappeler l'histoire,
Tettinger.
Le troisième, donc, c'est l'Italie, le quatrième, c'est l'Espagne. Ça représente à peu près 2/3 des effervescents donc, du monde. Donc, par ailleurs, il y a des nouveaux arrivants, d'ailleurs, parce qu'on a vu que le Prosecco italien, effectivement, c'est aujourd'hui aussi gros que la Champagne. 320 millions de bouteilles, hein, grosso modo.
Mais c'est moins bon, quand même, c'est moins bon.
C'est nettement moins bon, mais c'est aussi nettement moins cher. C'est d'ailleurs sa force. Un Prosecco, ça se produit à 2 euros la bouteille, quand même.
Oui.
Donc, il a fait sa place en 5 ans, et on voit aujourd'hui monter le Chili, l'Argentine. Hein, donc ils vont être des futurs grands producteurs, c'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille quand même.
Oui, parce que c'est pas une appellation qui est très défendue en termes géographiques comme l'est la Champagne.
C'est avant tout une technique. Hein, voilà. Donc la technique aujourd'hui, on sait exactement comment ça fonctionne, et donc aujourd'hui, tout le monde en fait un peu dans le monde entier. Donc la Champagne elle-même, effectivement, c'est 35 000 hectares. Hein, donc ici, en fait, c'est 4% du vignoble français. Hein, c'est 30 000 emplois, dont 15 000 salariés. Et d'ailleurs, pour 2015, on a atteint un maximum historique, puisque le chiffre d'affaires est presque de 5 milliards, donc de la Champagne. C'est le plus grand, d'ailleurs, depuis... Il a battu le record donc de 2007. On n'a pas battu le record en nombre de bouteilles.
D'accord, c'est pas un nombre de bouteilles.
310 millions, puisqu'en 2007 et en 2008, on en a fait un peu plus. Hein, ça veut dire qu'on le valorise mieux. Hein, alors d'ailleurs, qui produit donc ce champagne en Champagne? D'abord, ce sont les maisons qui représentent 71% du volume. D'ailleurs, il y a un paradoxe, puisque 90% du terroir champenois appartient aux vignerons, mais il est commercialisé à 71%, par les maisons. Donc, on doute
qu'à un moment donné,
il y a des gens qui doivent vendre du raisin, d'autres qui doivent en acheter. Donc, le point doit être assez critique. Les coopératives, 20%, donc les vignerons, 9%, pour donner des ordres de grandeur. Où ça se vend? D'abord, la Champagne, ça se vend beaucoup en France. La moitié du champagne est vendu en France. 52%.
C'est pas un risque, ça, Bernard, au niveau ventilation du risque pays, parce que 50%, c'est beaucoup quand même.
Oui, mais l'autre moitié est vendue à l'export. Ce qui est une autre performance, puisque c'est quand même la région qui exporte le plus. C'est pas le pays qui exporte le plus d'effervescents, puisque l'Italie et l'Espagne exportent plus que
de
la
bulles.
France. De bulles. Néanmoins, la moitié est en France. À la louche, 1/3 vendu en grande distribution. Par les producteurs, qui représentent 9% de la Champagne, mais qui vendent beaucoup en France. Les grandes marques exportent donc beaucoup. Et 1/3 qui est ce qu'on appelle dans le trade, c'est-à-dire entre les CHR, etc. C'est d'ailleurs le deuxième poste d'exportation donc de la France en quand même en donc l'année dernière, donc la France a exporté pour un peu plus de 11 milliards de vins et spiritueux, ce qui est donc le deuxième poste d'exportation de la France. En de fait, le premier, parce que le premier c'est l'aéronautique, hein, donc ici qui fait 20 milliards, mais les 11 milliards vins et spiritueux sont en France, alors que quand la France facture un Airbus, il n'y a que 20% qui reste en France. Hein, les moteurs repartent chez Rolls-Royce, etc. Ce qu'on oublie de dire. Donc en fait, c'est le premier poste économique de la France. Et donc la Champagne est d'ailleurs en première ligne, hein, donc ici, donc, puisque c'est le premier chiffre d'affaires à l'export, donc qui représente en gros 23% de l'ensemble. Donc,
sur les 5 milliards dont on parlait tout à l'heure.
Sur les 11 milliards, 23% c'est la Champagne. Ensuite, c'est le cognac, hein, donc, pour prendre à peu près presque la Champagne. Et ensuite, Bordeaux. Hein, donc, c'est les trois grandes locomotives, donc la maison
France. Et les principaux pays consommateurs de Champagne, donc hors France, Bernard ?
Alors, les principaux pays consommateurs, donc hors France, donc ça se fait. Donc ici, donc, bon, je vous dis, donc la moitié est vendue en France. Donc le reste, donc il y a une grosse partie en pays tiers. Hein, donc ici, donc Japon, donc États-Unis, et puis donc en gros 25% en Europe. Hein, donc ici, la Grande-Bretagne qui est le premier pays. Hein, donc ici, donc
finalement, on les aime les Anglais finalement. Oui.
Pardon.
Finalement, on les aime les Anglais. Hein.
Ben, les Anglais boivent quand même. Hein, donc ici, ils exportent aussi parce qu'on oublie que c'est la Champagne, que le Royaume-Uni est un grand pays, une plaque tournante, donc qui achète et qui vend. Hein, donc ici. Donc alors. Tout à l'heure, on parlait du rosé. Donc, le rosé, donc, c'est 12%. Donc, aujourd'hui, c'est un maximum historique. Enfin, je rappelle juste que dans l'histoire, on est dans la quatrième vague, hein, donc ici, donc, de champagne rosé à la mode, hein, puisque ça se mode et ça se démode, hein, donc ici, déjà, il y a un siècle, hein, donc, le champagne rosé était très à la mode. Donc, en tout cas, on est dans un maximum historique. Surtout d'ailleurs pour les États-Unis, donc, et le Japon, qui sont les deux grands pays, donc, importateurs. Le brut sans année, hein, donc ici ça représente 80% très exactement donc du volume. Les millésimés, dont on parle beaucoup, c'est que 2% du volume.
Eh oui, hein, et pourtant on en parle beaucoup, c'est vrai.
Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est que si on millésime tout, on déshabille quand même le brut sans année.
Hein, donc, c'est une logique,
si je puis dire.
C'est une logique.
Voilà, la vache à lait, hein, donc ici, donc, donc ici. Et le cuvée de prestige, ça représente un peu plus de 4% donc du volume, mais 14% en valeur. Parce qu'en Champagne, il faut toujours distinguer, hein, donc ce qui se passe en volume. Hein, donc ici, par exemple, le marché français, hein, donc ici, c'est la moitié en volume, mais en valeur, c'est qu'un tiers donc, de la valeur. Hein, donc ici, puisque les bouteilles qui sont exportées sont plus chères que celles qui sont vendues sur le marché français.
Et les pays d'avenir, demain, le champagne sera consommé où, selon vous, Bernard et Pascal aussi, d'ailleurs ?
Alors, dans les pays d'avenir, donc, bon, alors c'est plus. Le Japon a fait effectivement une très forte progression. L'Italie est. On en parle peu, mais c'est un pays grand, fait du Prosecco, mais c'est aussi un grand pays consommateur de champagne. Donc, ils aiment beaucoup donc la bulle en général. Et donc, aujourd'hui, il y a tous les pays nouveaux. L'Australie, voilà par exemple un endroit hein, donc ici, parce que tout simplement, le champagne est moins cher, d'ailleurs, en Australie, que les effervescents australiens eux-mêmes. Hein, donc, ici, donc c'est un énorme marché. D'ailleurs, j'étais il n'y a pas longtemps et j'ai vu donc, la percée remarquable. D'ailleurs, toutes les grandes marques que je vois donc, font des. Vous êtes à Melbourne, toutes les semaines, il y a un événement champagne quand même.
C'est dingue, intéressant. Ça. Vous vendez un peu, Pascal, en Australie ?
On ne vend pas en Australie, on vend en Nouvelle-Zélande. Ah oui. Vous voyez, c'est un petit peu plus loin.
On les aime moins en rugby, ceux-là, quand même. Hein.
Non, mais ouais. Ils sont très bien parce qu'ils montrent aussi ce que c'est qu'une valeur d'équipe et puis le sens de la gagne. Et quand on voit les All Blacks, figurez-vous que nous, on s'identifie à ça et on a toujours envie de faire comme eux.
Bon. Un petit AK pour terminer cette partie, là?
Non, j'ai pas la carrure. j'ai pas la carrure. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fonction des pays tiers, on a parfois des effets de mode. On parlait encore l'année dernière beaucoup du Nigeria, par exemple. Le Nigeria, premier pays en Afrique noire, en import.
À déguster. Sans modération, le Nigeria en tout cas.
Bah, certainement pour eux, oui.
Merci Pascal, merci également Bernard Burchi. On marque une courte pause, ensuite retour ici dans le caveau du Champagne de Castello qui fête son premier siècle ici pour une émission spéciale consacrée au Champagne.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au caveau du Champagne de Castello à Reims pour cette émission spéciale consacrée au Champagne, également à l'œnotourisme en Champagne. À mes côtés, Corinne Lefort, Bernard Burchi, Pascal Prudhomme, le député maire de Reims, Arnaud Robinet. Et il vient de nous rejoindre, et tout sympa, Nicolas Pellivagnan. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, vous êtes notamment
bonjour
le président du club hôtelier Reims-Champagne. On va parler avec vous, Corinne Lefort. Il s'est produit un truc extraordinaire. Le classement au patrimoine mondial de la Champagne et également de la Bourgogne. Vous nous expliquez tout ?
Ah oui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, pour une région comme la Champagne, ça va aussi être à la fois une reconnaissance mondiale et nationale, mais surtout va leur donner envie de continuer à se positionner dans une notion de patrimoine et de, je pense, de reconnaissance d'une histoire qui va avoir des conséquences sur le futur. L'important de l'histoire, c'est aussi de connaître d'où on vient pour aller de l'avant. Et cette forme de reconnaissance internationale est vraiment un élément qui va booster, me semble-t-il, comme ça a été le cas pour tous les endroits où il y a eu des reconnaissances au niveau de l'UNESCO, pour améliorer, pour changer l'esprit, pour changer les idées et surtout le regard.
Et les critères, Corinne, pour être classés ?
Alors, les critères sont variables. Par exemple, lorsqu'ils ont été classés, donc c'était en juillet 2015, ce sont donc les coteaux, les maisons et les caves de champagne qui ont été classés, reconnus leur valeur universelle exceptionnelle dans le paysage culturel évolutif vivant. Alors, je recommence, paysage culturel évolutif vivant, c'est-à-dire que c'est un patrimoine vivant, pour être simple, comme des grands artisans d'art, et c'est surtout évolutif, c'est-à-dire qu'il donne une marge de possibilité de changer, d'améliorer, c'est pas figé, comme un monument historique qui est classé, ça va permettre de comprendre et de faire évoluer toute une ère de production et un paysage dans la limite où il va devoir justifier ses travaux pour le bien-être du paysage, ou en tout cas pour le bien-être des populations y vivant, puisque c'est vivant. Donc, quelque chose de très important. Et en même temps, c'est quelque chose qui a motivé les 21 représentants des États partis qui ont donc, lors de la convention à Bonn, donc le 4 juillet 2015, fait révéler la place essentielle du champagne dans notre culture nationale française. C'est quelque chose qui n'était... Vous savez, on n'arrive pas à communiquer sur les vins et spiritueux en France pour différentes raisons. Mais là, c'est une forme tellement importante de cette communication parce qu'au travers d'un paysage, c'est un savoir-faire et c'est un vignoble.
Réaction, Arnaud Robinet, vous êtes le député maire de Reims. Alors, bon, c'est passionnant ce que raconte Corinne. Pour une ville comme Reims, c'est quoi les enjeux ?
Alors, c'est passionnant, mais je dirais qu'une inscription à l'UNESCO nous oblige. Ce n'est pas l'aboutissement.
Non.
C'est véritablement le commencement de quelque
non.
chose.
Non.
Et cette deuxième inscription, parce que Reims, c'est deux inscriptions à l'UNESCO, nous a permis justement de potentialiser, redémarrer, je dirais, tout un projet touristique, économique, autour de la première inscription à l'UNESCO, qui concerne la cathédrale de Reims, la basilique Saint-Rémy, le palais du Thau et l'abbaye Saint-Rémy. Et puis, on associe aujourd'hui, bien sûr, les buts de Saint-Nicaise et la cité du Chemin Vert, qui sont, eux, font partie de la deuxième inscription qui concerne caves, coteaux et maisons de champagne. Ce qui est intéressant, c'est que, il faut noter que ce n'est pas le champagne qui a été inscrit à l'UNESCO. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'étais présent à Bonn le 4 juillet 2015, aux côtés de Pierre Cheval, qui a été
grand organisateur,
et nous lui devons en grande partie cette inscription. Le premier ambassadeur qui a pris la parole a été l'ambassadeur iranien et qui a dit « Je ne comprends pas pourquoi le champagne n'est pas déjà inscrit à l'UNESCO ». Donc voilà, il y avait aussi un peu cette confusion. Mmh. Mais au-delà du champagne, au-delà des paysages, c'est également l'histoire. On a parlé des femmes tout à l'heure, l'histoire des femmes et du champagne, mais c'est surtout ces hommes et ces femmes qui ont façonné ce territoire, qui ont façonné ce terroir et à qui on doit aujourd'hui ce qu'est la champagne et ce qu'est le champagne. Alors oui, d'un point de vue retombée touristique et économique, c'est très important. Mmh. Mais je disais, on doit accompagner ces inscriptions. Et donc, nous sommes lancés dans une politique ambitieuse de rénovation, de réhabilitation du patrimoine de la ville de Reims. Et d'ailleurs, avec une particularité, et nous sommes mis à l'honneur sur le territoire français, beaucoup avec du mécénat.
Oui, mécénat. Ça, c'est assez étonnant. Hein. Donc, mécénat, les entreprises sont motivées. Hein.
Mécénat d'entreprise, mécénat particulier, mais surtout les entreprises, mécénat de compétences ou financiers qui nous ont permis de restaurer...
Pas forcément des grands groupes, hein, également des PME qui ont mis la main à la poche.
C'est
quoi.
Ce qui fait la force, justement, du mécénat rémois, c'est que, voilà, ça concerne également des petites, moyennes entreprises, des artisans, des commerçants, et en fait, c'est très fédérateur autour du patrimoine.
Et vous prenez des mécènes, même si c'est des boîtes en dehors de Reims, vous acceptez tout le monde. Hein.
Bien sûr, si BFM souhaite venir mécéner, en tout cas, notamment, on a un très beau projet concernant la plus vieille église de Reims, l'église Saint-Maurice, nous l'acceptons avec plaisir. Mais derrière ça, il y a aussi toute la politique au niveau la politique de la voirie, de l'urbanisme. Et donc, nous avons doublé nos budgets voirie pour avoir de véritables écrins autour de ces monuments inscrits à l'UNESCO. Et puis, nous avons mis en place une AVAP, une aire de valorisation protégée concernant le secteur des buts de Saint-Nicaise et également une aire protégée pour le centre-ville. Il faut véritablement sauver Et ce patrimoine, quand j'ai le sauvé, c'est le réhabiliter.
Oui, c'est ça.
Et surtout permettre, c'est notre devoir, et moi je considère que c'est une de mes missions en tant que député maire de Reims aujourd'hui, de pouvoir transmettre ce patrimoine ensuite aux générations futures.
Et aujourd'hui, combien de touristes chaque année viennent à Reims et également en Champagne au sens
large? Reims aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 millions de touristes.
Alors, quand même.
Nous avons encore une marge, enfin, je dirais, ô combien importante, parce que nous sommes à 45 minutes de Paris par TGV, à 30 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle, nous sommes un carrefour autoroutier, ce qui fait que nous sommes accessibles. Et puis il y a cette histoire, il y a ce patrimoine architectural, il y a ce patrimoine gastronomique. Hein, tout à l'heure on parlait des Crayères et nous avons la chance d'être une des villes les plus étoilées par rapport au nombre d'habitants. Hein, nous avons de grands établissements ici sur le territoire rémois. Et puis bien sûr le champagne et la Champagne. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est, allez, sans critiquer ce qui a été fait auparavant, mais Reims n'a jamais potentialisé sur le champagne. Et quand on arrive à Reims, encore aujourd'hui, quand vous sortez de la gare, rien ne nous fait dire que vous êtes dans la capitale du champagne, la cité du champagne, car je ne veux pas froisser mes amis sparnassiens, mais dans la cité du champagne.
Et donc, c'est la banlieue. Non,
mais voilà, vous savez, c'est... Et puis, ce qui se fait à Épernay est bénéfique pour Reims et vice-versa.
C'est l'union sacrée.
Le même patrimoine.
Et
le
pourquoi
même
est-ce que tous les hommes politiques ne parlent pas comme vous, Arnaud? Vous êtes vous.
Moi, je suis un passionné hein de ma ville.
À quand la présidence, là? C'est le moment, là, faut se déclarer, hein.
En marche. Ouais. Je suis un passionné de ma ville, un passionné de son patrimoine, un amoureux du champagne. Certains étaient tombés dans la potion magique dès qu'ils étaient, quand ils étaient petits. Moi, je suis tombé dans le champagne.
Non, mais bien, il y a pire, hein.
C'est quand même génial de voir Arnaud s'exprimer ouvertement en étant un ambassadeur du champagne. Et pourquoi est-ce que nos autres hommes politiques, là, hein, c'est un léger appel du pied, là, en 2017, on ne dit pas c'est génial, le vin, les spiritueux, le champagne?
D'autant que c'est quand même la première activité économique. Exactement. Du pays, quand même.
Corinne, est-ce qu'on peut quantifier?
Juste sur le sujet, on a eu des discussions invraisemblables au Parlement, à l'Assemblée nationale, dans le projet de loi modernisation du système de santé porté par Marisol Touraine.
Oui.
Et sur la partie de la loi Evin qu'on n'a pas remis en cause, on a juste voulu mettre fin des imbroglios politiques. Mais il faut voir comment je me suis fait parfois même insulter par certains collègues parce que je défendais le vin et que j'étais quelqu'un qui était, irresponsable vis-à-vis de la jeunesse.
Mais c'est dingue.
Le vin, c'est ici. C'est...
Quelques noms de vos collègues, là, irresponsables?
Non, je ne dirai pas. Mais le vin.
Ils sont des copains pour Noël,
quoi. Le vin, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut véritablement aller dans une politique de prévention, ça passe aussi par l'éducation.
Mais en plus, vous avez une chance incroyable. Vous avez un nom qui s'appelle Champagne, qui est la région, et en même temps, le nom de la boisson.
La boisson.
Il n'y a rien de meilleur.
Bien sûr.
Pour revenir à le tourisme, 2 minutes quand même, c'est le sujet de l'émission, Corinne Fort. Est-ce qu'on peut quantifier les retombées pour un territoire qui est classé ou pas, en termes de retombées économiques ou nombre de visiteurs?
En prenant,
ou,
par exemple,
nombre de bouteilles de champagne ouvertes pour le fêter?
En prenant, par exemple, la ville de Saint-Émilion et de son vignoble, hein, puisque c'est le paysage aussi. C'est vrai qu'en 10 ans, c'est 10 fois plus que ce qui était les années précédentes.
10 fois plus, quoi.
Ouais.
Et au niveau, Arnaud, événementiel, il se passe toujours des choses à Reims, en fait. Hein.
On a énormément de manifestations, d'événements culturels, sportifs ou autres. Et je ne vous cache pas que nous travaillons avec les acteurs du monde du champagne, l'Union des Maisons de Champagne, mais également, bien sûr, le Syndicat Général des Vignerons et le CIVC, parce que nous souhaitons créer à Reims un événement autour du champagne. Et d'ailleurs, nous avons, dans le cadre de notre projet urbain, le projet Reims Grand Centre, qui va façonner ou redessiner une partie du centre-ville.
Enfin, une piscine!
Nous avons 5 piscines, mais nous aurons cette magnifique piscine et cette magnifique aréna, celle événementielle. Mais au-delà, c'est que nous travaillons également avec les acteurs du champagne pour pouvoir créer très prochainement à Reims, près des Halles du Boulingrin, non pas une cité du vin telle qu'on peut la connaître chez nos amis bordelais, mais une cité autour du champagne, un centre d'interprétation, parce que je considère qu'à Reims, nous sommes la porte d'entrée sur le champagne et de la Champagne, de par l'arrivée du TGV, le carrefour autoroutier, et que c'est à nous après d'irriguer l'ensemble du territoire par ces touristes. Et je le dis, aujourd'hui, l'intérêt en tout cas de Reims, c'est que des touristes passent également une journée à Épernay, passent une journée dans le sud.
Dans la Grande Champagne,
parce que ça fera rester nos touristes plus longtemps ici et ça augmentera le nombre de nuitées, n'est-ce pas, monsieur le président des hôteliers?
Mais bien sûr, on va en parler dans quelques minutes, mais c'est vrai, c'est important, c'est l'intérêt supérieur de la Champagne, quelque part, Arnaud. Pascal, le no-tourisme, pour vous, ça veut dire quoi, votre maison?
Le no-tourisme, déjà, c'est une fierté à partager ensemble pour appartenir à un patrimoine. Et Reims, pour nous, c'est pour moi la capitale capitale du Champagne. Mais là, je suis rémois, donc je peux le dire.
Oh non, Oulémois et Épernay, ils sont très sympas.
Ils sont très gentils, mais bon, nous, voilà, on est implanté à Reims depuis très très longtemps et on est tellement fiers de venir ici élaborer nos vins. Qu'est-ce que signifie le no-tourisme? C'est déjà pour nous des investissements forts, parce qu'on se doit aussi d'être à la hauteur. Et on a donc un projet sur les deux ans qui viennent.
Vous recevez ici du monde ?
Oui, on reçoit à peu près 30 000 personnes.
Ah quand même, 30 000 ?
Oui, bien évidemment, avec nos installations de réception que je décrivais tout à l'heure. Et 30 000 personnes se doivent d'être bien reçues. Ça, c'est important.
Avec le sourire. Ils sont sympas, les Champenois, ou pas ?
Il y a une approche un peu compliquée, mais quand on est breton, de toute façon, on a face à nous des menhirs. Donc, n'importe
qui sourit, c'est bien. Si vous prenez l'extrême, oui.
Donc, voilà, je prends l'extrême. Mais non, on est toujours très, très bien accueillis ici. Et je crois qu'il y a une capacité et une volonté. Mais il y a aussi un apprentissage. Combien de villages encore aujourd'hui sont fermés en week-end lorsque des touristes traversent ces villages? Et là, on a un apprentissage énorme à faire, y compris d'ailleurs ici, puisque pour l'instant, nous n'avons pas encore de magasin de vente, ça ne saurait tarder, mais il va falloir qu'on trouve les systèmes pour faire venir du monde dans ces rues. Donc, grâce à l'effort que la mairie met en place sur le centre-ville de Reims, on pourra tous en bénéficier. Mais ceci, ce sont des investissements financiers, donc il faut aussi les rentabiliser derrière.
Arnaud?
Oui, on parle de nos touristes, on parlait d'événements. Nous avons eu un événement important à Reims cette année, organisé par notamment Atout France. Nous avons eu Destination Vignoble, 450 tours opérateurs présents ici à Reims. Et à cette occasion, nous avons réussi enfin à véritablement créer une marque de destination, la Champagne, à l'art de vivre, entre le CIVC, la région Grand Est. Et donc, ça a été concrétisé lors de ce Destination Vignoble. Et je dirais que ça n'a pas été facile, parce que vous savez que le champagne ou le non-champagne est très protégé, et que même nous, collectivités, avons du mal à utiliser le non-champagne. Mais en tout cas, les choses se passent plutôt bien. Voilà, nous travaillons tous dans l'intérêt du champagne et de la champagne, et que ce soit le CIVC ou les collectivités. Nous savons utiliser également le non-champagne à bon escient.
C'est-à-dire,
il ne faut pas dévaloriser le non.
Exactement. Donc, ça bosse intelligemment.
Ça bosse intelligemment.
Quand des milliards de visiteurs vont affluer vers Reims dans peu de temps, là, à 16h01, quand l'émission sera terminée, Nicolas, on peut les loger tous dans votre hôtel Mercure, là, ou pas ?
Alors, dans mon hôtel Mercure, non. J'aimerais bien, mais pas encore. On a aujourd'hui à Reims une offre hôtelière qui est quand même plutôt pas mal, qui s'est bien développée, qui va continuer à se développer. Il y a quelques projets qui sont en cours. Mais aujourd'hui, on a, entre l'hôtellerie économique et l'hôtellerie premium, très haut de gamme, qui est souvent citée quand on va visiter nos clients tour opérateurs un peu partout dans le monde pour le no-tourisme, parce que c'est vraiment un marché assez premium. On a aujourd'hui une offre qui est quand même, par rapport au marché d'aujourd'hui, plutôt en phase.
Et par rapport à l'ambition, c'est-à-dire avoir encore plus de touristes, des gens qui viennent un peu plus longtemps, qui dépensent encore un peu plus de sous chez vous, du camping à l'étoile Michelin, on a ce qu'il faut ou pas ?
Aujourd'hui non, mais on attend avec impatience ces nouveaux clients, et puis on a des projets qui sont en cours.
Et votre vision de la région, la Grande Champagne, Épernay, Troyes, tous ces gens-là, ils ont ce qu'il faut en capacité, ou il faut qu'ils s'améliorent ?
Ah, il faut que tout le monde s'améliore. Si on est dans cette belle ambition qu'on attend tous, puisque un marché hôtelier, c'est des nombres de visiteurs et un nombre de chambres qu'il faut remplir, et on voit qu'il y a une vraie progression. Reims doit, à mon sens, rester un peu le flagship de cette destination, et on le voit très très souvent. Et je remercie d'ailleurs ici Arnaud Robinet de tous les efforts et de toute cette vision qu'il apporte au tourisme et ce travail qu'on arrive à faire avec lui tous ensemble. Il y a un peu de travail, mais on est dans cette dynamique.
On parlait tout à l'heure de qualité de service, de sourire du Champenois. Les hôteliers dans la région, ils sourient tous, ils sont sympas.
Tous les hôteliers sont sympas, mais ça, oui, c'est bien connu.
C'est presque un pléonasme.
Non, mais il y a, moi je suis pareil, moi je suis arrivé à Reims il y a 12 ans.
Ben voilà, vous êtes normal au départ.
J'ai posé mes
voilà.
valises. Et je suis tombé complètement amoureux de cette ville, de cette destination et des Champenois et des Rémois. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu depuis 10 ans quand même une vraie évolution qui s'est menée. Il y a quelques temps, pour les Français, Reims c'était une petite ville de l'Est. On savait pas trop où c'était, on le plaçait pas sur la carte. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique de la destination Champagne.
Oui, y compris entrepreneuriat. Il y a pas mal de boîtes qui s'implantent ici, qui créent, qui relocalisent en France et pourquoi pas Reims, quoi.
Tout à fait, oui. Nous avons aujourd'hui une dynamique d'un point de vue économique avec cette année encore plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont installées sur Reims.
Et des beaux événements comme les Assises du Produire en France, chaque année le 9 septembre.
Voilà, c'est des événements importants. Et nous avons d'ailleurs également une augmentation du nombre de congrès organisés à Reims.
Il y en a combien? 27? trentaine.
Je dirais qu'il se passe qu'entre le parc des expositions et le centre des congrès, il y a chaque semaine quelque chose. Et c'est vrai que c'est cette proximité de l'Île-de-France. Je dis toujours, nous sommes la porte d'entrée est, certes, de la du Grand Paris. Nous sommes la porte d'entrée ouest de la région Grand Est. Nous sommes à 1h16 de Strasbourg en TGV, 40 minutes de Paris en TGV. Donc on a une situation géographique idéale qui nous permet aujourd'hui, en tout cas, de se développer et d'avoir un regard optimiste sur l'avenir du territoire.
Nicolas, tout ce qui est investissement hôtelier, ça doit être quoi? Ce sont des privés, les gens sont motivés, on a envie de créer des hôtels, d'investir ici, ou alors les gens sont encore un petit peu frileux?
Pendant très très longtemps, les grands groupes étaient assez frileux concernant Reims, et on voit aujourd'hui que les grands groupes commencent à se réintéresser à cette destination. On les citera pas, mais il y a quelques projets de grands groupes hôteliers internationaux qui n'étaient pas présents à Reims, qui sont annoncés. On a également un groupe bordelais bien connu qui va s'installer entre Reims et Épernay dans pas longtemps sur une offre ultra haut de gamme avec deux restaurants, dont un gastronomique. Donc on voit quand même qu'il y a un vrai engouement des investisseurs hôteliers sur cette destination.
Pascal Prudhomme, en matière de communication, il faut faire plus encore, parce que vous communiquez beaucoup. D'ailleurs, un petit clin d'œil au Vendée Globe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe?
Au Vendée Globe, nous, on est partenaire d'un super navigateur qui s'appelle Jérémy Bayou, encore un Breton. Enfin, là, c'est normal. Ils vont voir ailleurs sur la mer. Donc lui, il est actuellement au niveau des Kerguelen là, et depuis maintenant 3 ans, on emmène l'ensemble des adhérents, l'ensemble des salariés autour de ce projet d'accompagnement, d'un partenariat, d'un navigateur. C'est pas évident de relier la mer et les Champenois, sinon peut-être sur la Côte d'Azur, mais
si, pour célébrer la victoire.
Voilà. Mais c'est quelque chose qui est important parce qu'on crée une fierté d'appartenir à une entreprise un peu folle, faire le tour du monde seul sur un bateau en course. Là, il est cinquième.
C'est génial, quoi.
C'est absolument fabuleux.
Et vous êtes présent aussi dans le jazz en matière d'événementiel, et
oui,
aussi dans le vélo.
Dans le vélo, surtout le vélo. Déjà avec le Tour de France depuis maintenant, c'était la 5e édition cette année. On a eu la chance de les recevoir ici en 2014.
Oui, c'est Arnaud qui avait le maillot jaune. Bravo.
Mais tout à fait. Depuis pas mal de temps maintenant. Et puis on les recevra bien sûr à Troyes l'année prochaine. Et le jazz, effectivement, la musique, la culture, vraisemblablement l'art contemporain aussi. Donc vous voyez, il faut aussi installer avec le champagne, qui est un produit de consommation, une idée de rêve. Et il faut aussi avoir une constance dans ce rêve. Et ce rêve, pour nous, on est en train de le construire ensemble pour le deuxième centenaire.
Bernard Burchi, vous trouvez que les champenois, au sens large, que ce soit Reims, Épernay, communiquent bien, suffisamment? Ils donnent envie? C'est sexy leur communication ou pas?
Je crois qu'on peut mieux faire, parce que la France du vin en général est sous-communiquée, la France du champagne aussi. Oui. Donc il faut, à mon avis, il faut vraiment s'en occuper. D'ailleurs, pour un non-touriste, en moyenne, ça dépense 30 à 50% plus qu'un touriste normal.
Donc il faut le soigner, lui.
Donc il faut être soigné quand même. Et ça vaut la peine, oui. De s'en occuper. Et puis en plus, toutes les entreprises du monde aimeraient quand même que les gens viennent les voir. Puisque là, vous avez des gens qui viennent et puis qui repartent heureux et viennent chez vous, ce qui est quand même assez extraordinaire. Le tourisme, de ce point de vue-là, joue un rôle capital.
Arnaud, puis oui, Corinne.
Sur la communication, la promotion, on se tire une balle dans le pied ici en France, parce qu'on voit toute la limite et les limites que l'on a avec la réglementation, la loi et la loi Evin, qui aujourd'hui ne permet pas notamment aux maisons, aux vignerons, mais également aux collectivités de pouvoir le faire comme elles le souhaiteraient. Et là, il y a un vrai sujet aujourd'hui, et tant qu'on n'aura pas compris que le vin, le vignoble, la viticulture en France, c'est notre histoire, notre tradition, et qu'on doit, c'est notre faire-valoir. Donc c'est ce qui fait l'image de la France à l'étranger. On n'aura rien compris. Donc il faut peut-être, à mon avis, encore revoir un peu plus on va essayer de modifier un peu encore la loi Evin, mais ça va pas être... Il y a des sacrés lobbies derrière qui...
Ouais. Pascal, oui.
Oui, c'est fondamental, parce qu'on est quand même sur une valeur économique essentielle pour la France, d'ailleurs, comme pour l'Europe. Mais moi, je suis fatigué de voir parfois ces regards goguenards de confrères étrangers, producteurs de vin, qui, eux, peuvent, dans leur pays, parler de leur vin et l'associer à la culture, au sport. Bien sûr, il faut être vigilant par rapport à la jeunesse. Mais depuis 91 que cette loi a été créée, on n'a jamais empêché...
Il y a eu un ministère du vin en Australie. Il y a un ministère du vin en Australie. On en est loin.
Et puis le roi Juan Carlos a promu le champagne, le cava espagnol.
Dès qu'Arnaud Robinet sera président, là, ça va être la fiesta quand même. Qu'est-ce que vous en pensez?
Champagne pour tous. Je voulais rajouter quelque chose, si on a un peu de temps encore. Ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait de la mer tout à l'heure. Il faut quand même savoir qu'une des paradoxes, c'est que les croisiéristes sont les premiers acheteurs de champagne dans les activités dites de loisirs, hors territoire. Et donc, là, les croisières, la mer, les gens se laissent aller, se laissent porter, ils n'ont pas de contraintes. Et la consommation de champagne est énorme. Mmh. Et à un moment donné, c'était dans les îles des Caraïbes, où il avait, en termes d'endroits où le champagne était livré, que se trouvaient les plus grands parterres d'habitants, en limite de consommateurs.
Ça continue. La Guadeloupe et la Martinique sont des départements, bien sûr, exactement, français, mais on les considère comme des pays d'exportation.
Exactement.
Très importants dans les 12 premiers.
Ouais, très consommateurs, quoi, c'est vrai.
Et au niveau de la communication, je rajouterais que même si c'est un problème, et ça, toutes les régions viticoles françaises ressentent cette difficulté, l'avantage, c'est que les moyens de communication ont changé. Mmh. Et avant, on faisait de l'affichage, on faisait du papier. Aujourd'hui, avec toute la technologie que nous pouvons avoir, à la limite, on passe les frontières. Et si on fait des films publicitaires, on peut les passer sur des réseaux sociaux, on peut télécharger, on peut postcaster. Il y a une incroyable technicité.
Et la technologie a révolutionné la communication,
nous sommes
d'accord. Alors, certes, amender ou réviser peut-être la loi Evin, utiliser les réseaux sociaux et d'autres moyens, et puis aussi quand même être positif par rapport à la communication, parce que in vino, notre émission, on parle librement, et on parle depuis 14 ans, et c'est la 622e. Donc là-dessus, le monde du vin aussi doit être dynamique, parce qu'avant la loi Evin, il dépensait peu d'argent.
Exactement.
Donc le monde du vin aussi doit se dire, comment je vais pour communiquer. Hein, donc les torts sont vraiment, vraiment, vraiment partagés. Nicolas, un sujet génial, Airbnb à Britel, vous adorez vous ça, non ?
Merci. On a dit qu'on n'en parlait pas, non ?
Parce qu'en termes d'hébergement, quand on vient ici, quand tous vos hôtels sont complets, il faut bien dormir quelque part. Alors on va chez Arnaud parce qu'il a une grande maison, mais une fois qu'il est complet lui aussi, comment
fait-on ? Si vous saviez. Vous savez que j'ai ouvert la Zétis du Tourisme l'année dernière sur un fait qui, moi, m'amuse toujours. C'est que vous avez autour de la table Arnaud Robinet, qui est juste le premier hôtelier de la ville de Reims, puisqu'il est à la tête de l'hôtel de ville. Donc
c'est
un petit peu notre premier. Hôtelier.
Mais c'est un vrai concurrent pour vous, Airbnb ou pas?
Je crois que c'était moi le concurrent.
Bien sûr, c'est un concurrent. C'est un concurrent.
Mais vous les aimez ou vous les aimez pas, ces gens?
On n'a pas à les aimer ou pas les aimer.
C'est
une offre qui existe aujourd'hui, qui est une vraie demande des clients et qui a le mérite de faire un peu bouger les lignes des hôteliers de ce métier qui s'était un petit peu endormi. La seule chose que nous réclamons, c'est simplement qu'il y ait une petite parité et fiscale et réglementaire pour qu'ils puissent être en face de nous des vrais concurrents loyaux. Aujourd'hui, c'est un petit peu la seule différence qu'on vit. Mais d'un point de vue marketing et d'un point de vue marché, Airbnb, aujourd'hui est une offre qui existe dans le monde. Et voilà.
Et ils comblent un manque aussi, à la limite. Hein.
Ils comblent un manque, oui, effectivement, de temps en temps.
Directement.
Mais nous, à nous, hôteliers, en France et dans le monde, de remettre en question nos process d'accueil et notre façon
de. Alors, Robinet, ça vous perturbe, ça? Vous êtes d'accord avec Nicolas en disant au moins jouons à jeu égal, quoi, on va dire, avec des règles équivalentes.
On a discuté avec Nicolas et très souvent, et d'hôteliers à Reims. Où moi j'étais très clair, j'irais pas me battre à l'Assemblée nationale contre le Airbnb parce que l'arrivée et l'apparition de ce genre d'hébergement répond à une attente, répond à un besoin. Je la compare un peu à l'ubérisation de la société et à l'arrivée d'Uber vis-à-vis des taxis. Et donc ça doit permettre à nos hôteliers justement de monter en gamme, d'augmenter, d'offrir d'autres services, c'est-à-dire voilà évoluer ce qu'ils font. Alors après bien sûr il y a la question de la réglementation, de la législation, de la fiscalité, là il faut que chacun puisse jouer avec les mêmes armes. Donc là c'est bien sûr on doit regarder ce système, mais attention à ne pas trop réglementer parce qu'en France on a tendance à vouloir tout réglementer
et
à partir de là on inhibe un peu les
initiatives tout simplement
et on étouffe les forces vives. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que l'offre Airbnb ne correspond pas forcément à une clientèle et vice versa. Et je sais que les hôteliers en tout cas en ont bien conscience et qu'ils savent se remettre en question et qu'ils vont de l'avant et qu'en tout cas à Reims, ils ont de beaux et très beaux projets.
Pascal Prudhomme ?
Oui, j'en parlais tout à l'heure avec Bernard Biocchi, mais les périmètres économiques sont en train de changer avec l'arrivée, évidemment, du web, de la communication. Donc, c'est pareil pour le champagne. On est face à un monde concurrentiel de sparkling wines, d'effervescent. Si on ne bouge pas, si on n'innove pas, on sera exactement comme l'hôtellerie, comme les taxis, emprunt à plutôt se plaindre plutôt que de penser à réfléchir à une étape suivante, mais que l'on prépare à l'avance avec les collectivités, avec l'ensemble du personnel, puis aussi bien sûr les forces vives de l'entreprise, pour justement se permettre de pouvoir continuer à être le champagne demain.
Bernard Biocchi, vous le rappeliez, hein, le champagne, c'est tout petit, hein, dans l'univers mondial des bulles.
C'est effectivement tout petit. C'est très, très valorisant. Donc, c'est vrai qu'il y a des concurrents qui apparaissent. Bon, la force, hein, donc, c'est du Prosecco, c'est d'utiliser une méthode qui est nettement moins chère, bon, qui est effectivement nettement moins bonne, hein, donc, ici, mais qui a créé carrément un autre marché, hein, donc, ici. Donc, une bouteille, ça se vend pour un restaurateur à 2 euros. Il la met instantanément à 20. Hein, donc, ici, donc, toute la filière gagne beaucoup d'argent. C'est le succès du Prosecco. C'est pas par hasard s'il y a 320 millions de bouteilles. Hein, donc, ici, c'est une autre offre. Ça veut dire que le champagne est, par rapport à ça, obligé de se positionner. En plus, l'air n'est pas extensible, hein, donc ici, donc on ne multipliera pas les hectares, hein, donc ici, même si on va vers côté Chablis, puisqu'en fait la véritable extension serait plutôt côté Chablis que là où on va aujourd'hui, hein, donc ici, mais il n'y a pas vraiment, ça ne va pas révolutionner la production. Donc il y a un problème de positionnement, donc il y a un problème donc de savoir défendre effectivement la qualité, de la faire reconnaître, de s'en occuper. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui ne voient pas la différence entre un Prosecco, donc il y a la méthode Charma, hein, donc ici, donc, et la double fermentation en bouteille. Donc il faut faire de la pédagogie, ce que la champagne ne fait pas.
Et puis il y a un autre sujet. Enfin, je me permets je me permets de l'aborder, on va dire, ça ne vous regarde pas, mais il y a la question également de l'image du champagne. Oui. Et tant qu'on trouvera du champagne dans des supermarchés à moins de 10 euros la bouteille, c'est pas ce qui va.
C'est pas bon, c'est très mauvais.
C'est très mauvais.
C'est le fond de la question.
C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, là, on est en période de préparation des fêtes de Noël. Toutes les radios diffusent des spots publicitaires, et tant mieux, c'est comme ça que les radios vivent. Mais qui font appel à la mémoire du champagne, qui est un produit de luxe, avec cette valeur d'image. Mais qu'est-ce qu'on associe derrière? Moins 20%, moins 30%, 70% parfois sur des crédits de cartes. Mmh. Et on a actuellement des champagnes qui sont présentés en TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise au public dans les grands magasins, à moins de 7 euros. Entendez-vous bien, moins 7 euros.
Des sous. C'est combien le kilo de raisin en champagne?
Un kilo de raisin aujourd'hui, ça vaut en moyenne 5 euros, 5
euros. Bon, il faut combien de kilos pour faire une bouteille?
Un kilo 2.
Voilà. Voilà. Donc, déjà, là, les 7 euros, ils y sont.
Mais néanmoins, il faut aussi un vendeur et un acheteur pour faire une affaire. Donc, les deux sont responsables, à mon sens. L'acheteur, parce qu'il est en train de diffuser une valeur dépréciée du champagne, mais aussi le vendeur, parce qu'il se permet de faire ça.
Exactement. Corinne Lefort, c'est juste dramatique, ça. Hein.
C'est dramatique, mais ça fait des années que je le dis. Et bien évidemment, le Prosecco remet en cause tout ça, parce qu'il s'attaque en fait au champagne de bas prix, et il fait donc une concurrence effrénée. Mais il faut rappeler aussi qu'en France, c'est tout un problème pour les vins en général, puisque plus de 80%, voire même parfois 88% des vins sont vendus en grande surface. Donc il y a des gammes qui peuvent être en grande surface, il n'y a pas de problème, mais que des gammes dites plus élevées puisse avoir une autre forme de réseau, parce que en fait tous les autres réseaux, cavistes ou même restauration, finalement en pâtissent. Et l'image du champagne en est la preuve.
Madame Burchi, il y a encore des mauvais champagnes ou pas?
Bien sûr, il y a forcément
quelques marques peut-être de mauvais champagne.
Non,
il y a plus. Je pense que l'auditeur préfère qu'on lui cite des bonnes marques.
Oui, oui.
Hein, donc ici, donc dans
au moins une. Oui.
Donc ici, il y en a plein d'autres. Il y a des très bonnes coopératives.
Non, mais sérieusement, est-ce que quand on trouve des bouteilles à moins de 10 euros, est-ce qu'elles sont forcément mauvaises? C'est ma question.
Ben, en général, on a fait une impasse quelque part. C'est tout simplement, sinon on peut pas expliquer le 10 euros, parce que vous avez pas rappelé le prix du kilo de raisin. Donc forcément, il y a une impasse. Donc on n'utilise pas donc la cuvée ni la première taille, etc. Donc il y a forcément quelque part une impasse.
Merci à vous tous. Merci également, surtout à vous, Pascal Prudhomme. Ça fait déjà un siècle. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour votre deuxième siècle, alors?
Une jeunesse renouvelée.
Vous nous avez accueillis dans votre super caveau ici à Reims pour cette émission spéciale consacrée au champagne. Dans quelques instants, les infos de 16h. Et ensuite, bonne suite de dimanche. On va se retrouver dimanche prochain à 15h pour la 623e d'Invino BFM. D'ici là, bon dimanche après-midi sur BFM Business. On nous écoute à Reims sur 97.8 et à Paris 96.4. Et surtout, respectez la plus grande des modérations.